Nécessaire à partir du principe général de la Torah, que la créature se justifie devant le créateur, que toutes les mitzvot en découlent de façon mathématique, si je veux dire. Donc, si quelqu'un avait vraiment intégré ce principe, qu'est-ce que c'est que la Torah? C'est la Torah de la créature devant le créateur, il devrait par lui-même savoir quel est le juge qu'on a encore. Nous ne sommes pas du tout capables d'une telle capacité de sagesse. Mais la Torah n'a été donnée qu'à ceux qui étaient censés en être. Vous comprenez ça? Je veux dire à une fois ce que le grand devin a enseigné à ce sujet. Le devin a enseigné toute la Torah Shebalpé, toute la tradition, elle est déjà impliquée dans, le, dans la vie, dans le Tanakh. Quand je vous dis ce que c'est, tout le Tanakh est impliqué dans le Chumash. Tout le Chumash est impliqué dans la première ligne du Chumash. Tout le premier ligne dans la première paracha. Toute la première paracha dans le premier verset. Et tout le premier verset dans la première lettre. Celui qui comprend que ça veut dire bête peut reconstituer tout le truc. Il va être capable de ça. Là, c'est ce que je veux dire. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, en d'autres termes. Si je comprends que ça veut dire bête, ça veut dire bête, il y a deux. Qui sont ces deux-là? Avant, c'était, il y en a un seul. Vous voyez que peut-être la Torah commence par bête, pas par là. Ça veut dire que Dieu a créé un monde. Et à partir de ce moment-là, il y a deux êtres, Dieu et le monde. Et donc, bête, c'est, je veux dire, un terme philosophique pour vous montrer à quel point le problème est très profond dans le problème, c'est la relation d'altérité. Altérité, ça veut dire on est deux. Okay? Toute la Torah, c'est cette Torah qui commence par bête. Alors, si je comprends vraiment qu'est-ce que c'est bête, okay, alors je connais toute la Torah. Mais il faut être à un niveau de capacité de connaissance que nous ne sommes pas. Que nous n'avons pas le mérite d'être. Alors on fait cadeau, que rentre de lui aussi. Vous avez compris l'idée? Vous avez compris l'idée? De la manière pour le reste, c'est pas qu'il faut s'arrêter là et se dire bon, Dieu nous a donné la Torah. Et si vous avez donné la Torah et pas fait enfin avec Israël, alors aussi. C'est ce qu'on dit en final. C'est pas du tout ça. Ça veut dire que même ça, c'est lui qui le fait pour nous amener. Vous comprenez le. Et au fur et à mesure que vous avancerez dans l'approfondissement de ces choses, vous verrez qu'il y a une sorte de lien d'identité entre la Torah et Israël. La Torah, c'est la Torah d'Israël. Israël, c'est Israël, la Torah. Et par conséquent, d'une certaine manière, Israël, par lui-même, est censé être capable de réinventer cette Torah qu'on va lui donner, d'une autre manière. La Torah n'est donnée qu'à celui qui est capable par lui-même de la comprendre par lui-même. Parce que sinon, il ne peut pas la reconnaître. Donc, en principe, a priori, nous devons lui être capables, arrivés au Sinaï, Dieu nous a dit, bon, c'est vous, de savoir qu'est-ce qu'il y avait à faire. En plus, on nous a donné les livres. Où c'est écrit premièrement, deuxièmement, troisièmement. Par exemple, l'idée est claire. J'ai à vous les donner. Ça va? Au fond, c'est ça. Le secret de l'âme d'Israël. C'est une neshama qui est capable d'inventer ce que Dieu veut, de réinventer ce que Dieu veut. Alors c'est à elle qui s'adresse.
C'est une
racine.
Hein? Une racine.
Par exemple, oui. À ce niveau-là, c'est clair. À ce niveau-là, c'est clair. C'est aussi la même chose que le mystère de l'amour. Et ça, vous comprenez tout ça. Qui ont choisi? On choisit ce qui est fait pour celui qui est prêt à choisir. C'est quoi?
Non, c'est pour essayer de donner une personne qui veut des gens pour ça.
On est à Salut, vous êtes invité partout. Comment s'appelle cette personne?
Madame Blanque.
Ah,
C'est chez vous?
Blanque, pas très bien.
Blanque.
Top. Et alors, par exemple, l'image que vous emploie souvent, le pompier. Et si quelqu'un est capable d'être pompier, est-ce qu'on devrait lui donner un manuel du pompier, du parfait pompier? Il devrait être pompier tout seul, sans qu'on lui donne un manuel. Si on a besoin de lui donner un manuel du parfait pompier, c'est qu'il n'est pas pompier.
On devrait être pompier.
Non, je crois qu'on. Vous savez, non, vous savez, il y a des psychologues contemporains, parce qu'on a entendu parler d'un psychologue hongrois qui s'appelle Zondi.
Oui.
T'as entendu parler? Bon, ta vie, hein, toute une série de tests, quoi. T'as passé ces tests-là ?
Je les ai passés.
Et moi en particulier, on décèle, en particulier, je ne dis pas tout à l'heure, on décèle le genre de métier auquel on est naturellement porté. Et alors ça dépend des niveaux. Ça peut être assassin, boucher, chirurgien,
arrivé.
Ton
métier, assassin.
Voilà. C'est finalement c'est le même métier, mais sublimé. Je veux dire, bon, j'exagère, c'est pas le même métier, mais c'est une tendance au métier. Une tendance d'ailleurs au choix du mariage, et une tendance au genre de maladie mentale. C'est bien ça, hein? Et la quatrième, c'était quoi? C'est ce qu'il appelle le test du destin. Mais où t'y as appris ça? Quelle fac? De psychologie? Je ne savais pas que c'était rentré dans les mœurs.
C'est rentré
dans les mœurs. Bien. Et alors, ah oui, et le genre de mort qu'on se choisit. Ça, la mort, le métier, la femme et la maladie mentale. La mère, d'ailleurs, le mari. Je veux dire, voilà comment il procède. Donc, tout un jeu de photographie. De types divers et variés. Et puis on demande à faire des choix, des photos qui sont les plus plaisantes et les moins plaisantes. Ensuite on étudie ces choix, mais il faut se méfier parce que c'est très artificiel. On va faire ça des centaines de fois jusqu'à arriver.
Et puis il n'y a pas que ça.
Et il n'y a pas que ça, en fait. Et alors on arrive à décider des enfants. Tom. Pourquoi je vous citais ça? Ah oui, pour le pompier. Bien. Mais c'est très intéressant d'étudier pourquoi quelqu'un a choisi tel ou tel métier. On n'y arrive pas toujours à le comprendre. Et quand on ne le comprend pas, ça en signe, ça devient une révélation. Et parfois, il y a des raisons pour lesquelles on se choisit un métier. Et je me souviens bien, il y avait toute une série comme ça. Coiffeur, professeur, des gens qui parlent beaucoup. Les coupeurs de cheveux en 18. Qu'est-ce qu'il y avait encore?
C'est bon, moi je faisais pas tellement zombie, je faisais plus le revoir chat.
Le revoir chat, il y a des papillons. Bien. Alors voilà donc le texte de Dagenou. Et ensuite, vous avez le texte à la fin de Marie-Chama. Où on récapitule tout ça. Alors je traduis au même, on est à part. À la had, comme le chama. Littéralement, ça veut dire à pour forte raison. Littéralement, ça veut dire pour une chose, combien et combien. À la had, kama et chama. Alors on s'est passé dans le grammaire habituel pour dire à plus forte raison. À la had, kama et chama. Dans la là, c'est un bien doublé, complet, de redoublé que nous devons reconnaître à Dieu. Au Tianan et Mitraïm, à Saba et Shlatim, on récapitule toute la liste. Donc, alors ensuite, on a mis trois mishnayot de base, ce que nous allons traduire ensemble, et qui sont les mishnayot des trois signes du Seder. Alors vous prenez Rabban Gamliel, alors, Rabban Gamliel disait, avait enseigné Colmi, selon Amar, Shosha de Marie Melouva Pesach, celui qui n'aurait pas dit, cité, parlé de ces trois choses à Pesach, mais pas Pesach, ça veut pas dire dans la fête de Pesach, mais procéder de Pesach. L'Oyatza et l'Erobato n'a pas accompli son devoir, Velouen, les voici, Pesach, Matzah et Maron. Ça, ce sont les trois mishnayot de base. Bien. Alors, premièrement, Pessah. Pessah, cher Yuba, côté Noachim. Le Pessah que nos pères mangeaient, Bismarck, Shevet, Abidash, Kayam, au temps où le temps existait, Al-Shumma, c'était pourquoi? En vue de quoi? Al-Shumma, comme s'il n'y avait pas mort. Ou puis-je vivre mal. Un jour, tout le fait que j'ai passé à Hakadosh Baruch Hu, à l'Ouadère de l'Ouadère d'Israël, que Dieu a passé au-dessus des maisons de nos pères en Égypte. Chez Neymar, ainsi qu'il est dit dans le verset, Zébar Pessah ou Lachem, c'est un sacrifice de Pessah pour Dieu, Hachem Pessah Abad et Israël et Israël. Il a passé au-dessus des maisons des enfants d'Israël à l'Égypte, mais donc pour Israël, lorsqu'il a frappé l'Égypte, et il a battu nos victimes, et qu'il a sauvé nos maisons, et le peuple s'est incliné et prosterné. C'est-à-dire le peuple a accepté la commémoration de Pessah de génération en génération, jusqu'au Pessah de la Harita et jusqu'au Pessah de la fin des temps, qui commémorera lui la dernière grande nuit. Voilà le nom pour le Pessah. Donc cette Mishnah rappelle de façon très précise le souvenir du Pessah que l'on mangeait au temps où le temple existait. Et il y a simplement un zéhéh, un souvenir sur le sept. Deuxièmement, la Mishnah concernant la matzah, matzah zou, cette matzah, c'est à nous en que nous mangeons. Ashouma, c'est en vue de quoi? Réponse, Ashou, en vue, chez l'homme explique de tsekam, chez la vôtre de nous, les armites, que la pâte préparée par nos pères n'a pas eu le temps de fermenter, jusqu'à ce que ce soit dévoilé à eux, mais les malfaits de la fille Matosbor, celui qui est le roi des rois, le saint, béni soit-il. Bon, je vais quand même en profiter, tant que possible, ils ne sont pas là, pour vous expliquer en détail cette expression. C'est une expression importante pour que vous compreniez. Le roi, à Kadosh, Baruch. Et ce n'est pas du piabol, c'est un sens très précis. Alors je vais vous expliquer. Quelqu'un peut me trouver de la craie peut-être? Ah, il n'y a rien. Alors je vais mettre comme ça. Et ma craie. Mais ma fille, à ta gauche, pas beaucoup, ensuite, je ne suis pas ta gauche. Voilà, les Mélachim, les rois, c'est les rois des nations. Chaque nation a son roi. Peu importe si c'est un roi, vraiment un monarque, ou un chef de gouvernement, ou dictateur, président, peu importe. C'est les chefs des peuples sur terre, les Mélachim. Chaque peuple, et donc chaque dynastie, lorsqu'il s'agit de roi, a un tsar qui la dirige. Voilà, tsar. C'est-à-dire le prince céleste qui représente cette forme de la créature devant le tribunal céleste. C'est-à-dire qui représente les intérêts de tel peuple, de telle histoire, de telle société. C'est-à-dire toutes les sociétés humaines se récapitule en fin de compte à 70 nations de base, vous vous rappelez, qui sont représentées par un tsar dans le tribunal céleste. Nous avons déjà parlé de cela. Alors ça c'est les malchei hamalachim, les rois des rois. Et le meler malchei hamalachim, c'est Dieu lui-même. Alors la différence entre Israël et les autres nations, c'est que toutes les nations sont dirigés par le Dieu unique, mais à travers leur sarim. Alors qu'Israël n'a pas de sar. C'est directement. Et vous voyez ce qui manque au monde lorsque Israël est en exil. C'est la hachlacha, la shrina directe et cachée. Habituez-vous bien avec cette idée, à cette idée, bien que je sache que vous n'avez pas encore expérimenté, c'est qu'il y a eu un très longtemps, 2000 ans, auquel nous nous sommes habitués, c'est une situation du monde où la Shrina n'est pas dévoilée. Alors, on s'est habitué tellement que tout se passe comme si, dans l'expérience immédiate, le monde a toujours été comme ça. Mais je peux vous donner un indice par lequel vous La science est compte de cela, dans l'expérience. C'est comme si on est familier à l'étude de la Bible. Le monde tel qu'en parle la Bible, ce n'est pas exactement le même que le nôtre de vie. C'est un monde avec révélation. Vous comprenez bien cette idée, ce principe, hein? C'est-à-dire, c'est le même, mais c'est pas le même. La manière dont les personnages agissent dans le récit public, dont le monde apparaît dans le récit public, eh bien, regarde votre monde, mais est-ce que c'est du même monde ou pas? Vous voyez que oui, il y a 2000 ans, c'est produit quelque chose. L'arrêt de la révélation est corollaire de la dispersion d'Israël. Alors oui, c'est ce qu'enferme cette expression. Mère, malgré, amère. Après, je vous expliquerai à quatre jours. Mais avant cela, malgré tout, je voudrais corriger quelque chose chaque fois que je suis vendredi soir, pas souvent, mais peut-être vendredi soir. Non, je ne sais pas. Enfin, j'espère être encore une fois dans une année. J'ai dit une fois vendredi soir.
Oui.
Quand vous chantez le Charles Maréchal, faites une faute. Vous dites.
On l'a corrigé
maintenant. Ça y est, vous avez corrigé. Alors, comment il faut dire? Il faut dire ça. Alors, vous disiez Malachim. Malachim, c'est les anges. Melachim, c'est les rois. Vous ne trompez pas. C'est Shalom Alechem, Malaché Hachavet, Malaché Elion, Imelech, Malaché Hamelachim, et pas Malachim. Malachim, c'est les anges, ça s'écrit comme ça, avec un aleph. Malachim, malach. Quel est un mot qui ressemble à malach? Non, malchut, c'est celui-là. Le melech. Malach, mais. Mais. Melach, la hête. Melach, vous savez. Un malach, c'est quelqu'un qui est chargé de mission, d'une melacha. Vous voulez? Malach, c'est le masculin de melacha.
Je
ne
veux pas qu'il y ait une différence entre Amelachim et
Malachim. Et Malachim. Voilà, Melachim, c'est les rois terrestres, les chefs de gouvernement. Malachim, Amelachim, c'est les rois célestes. Voilà, ça je vous explique. Mais on a étudié ça depuis des années. Bon, je reviens là-dessus. Bon, c'est clair, malachim, les anges. C'est-à-dire, un malach, c'est comme un chaliach. C'est quelqu'un qui est chargé d'une mission. Il a une melacha à accomplir. Bon, je vais faire un petit schéma que je vais rentrer pour que vous compreniez cela. Voilà. Ici, je situe la multiplicité des nations. Le chiffre symbolique de la multiplicité des nations, c'est-à-dire les différentes manières d'être homme. Et à la limite, si vous comprenez bien, chaque individu est une entité pour lui-même, un génie pour lui-même, une manière d'être la créature. C'est clair ? Mais ça se récapitule au niveau de groupes humains, les nations. Alors, le chiffre symbolique, c'est 70. Ça, nous avons appris déjà dans le chiffre. En réalité, il y a des milliers, des dizaines de milliers de nations différentes, qui sont des combinaisons plus ou moins précises de ces 70 nations de base. Alors toutes les nations du monde, quelles qu'elles soient, se récapitulent au niveau des 70 nations de base dont elles sont les combinaisons. Okay. Bon. Alors ça, chacune de ces nations a un melech, des melachim à ce niveau-là. Okay. Et puis là, il y a des sous-melachim, peu importe. Donc, eh bien, le Dieu unique est relié à chacune de ces nations à travers la manière d'être précise de l'homme que représente chaque manière d'être homme dans chaque nation. Et par conséquent, entre ce Dieu unique et ces nations, il y a, si vous voulez, un prisme, un diaphragme. Okay. Ce sar et l'ensemble des sarim, c'est ce qu'on appelle le tribunal céleste. Okay. Ce sar, c'est Dieu lui-même, mais d'une certaine manière, sa volonté est limitée à la manière d'être, de telle manière d'être créature. Alors, prenez ça comme langage symbolique, c'est plus que symbolique. C'est-à-dire, Dieu s'adresse à telle manière d'être homme à travers cette manière d'être Dieu. Alors c'est ce que eux adorent quand ils adorent leur Dieu. En réalité, c'est Dieu lui-même, mais rapetissé à tel diaphragme de relation entre Dieu unique et cette manière d'être avec Dieu.
C'est l'exemple qu'on a vu ce
matin. Attends, laissez-moi finir. Je ne sais pas quand tu penses, mais laissez-moi finir d'abord. Ça, c'est par rapport aux hommes. Mais par exemple, par rapport au phénomène de la nature, eh bien, la volonté du Dieu unique correspond à tel phénomène de la nature à travers telle loi de la nature bien précise. C'est le Dieu unique qui se dévoile en tant que telle ou telle volonté pour tel ou tel phénomène. Et c'est à ce niveau-là qu'est le mot Elohim, au pluriel, les Elohim. Et c'est lui qui est ces Elohim, mais pas l'inverse. Je ne peux pas dire que ce Elohim, c'est lui. Lui, c'est ça aussi. Je ne peux pas dire que ça, c'est lui. Sauf le cas particulier d'Israël qui n'a pas d'intermédiaire.
Et les Arabes.
Hein ?
Et les Arabes.
Non, les Arabes. Si, si. C'est le même que celui des Aïeux. Je ne dis pas seulement que vous apprendrez d'ailleurs, je ne dis aucun nom, sauf un cas particulier. On n'a pas le droit de prononcer ces noms-là. Bon. Essayez de vous expliquer cela. Ça veut dire que, dans ce sens-là, entre le Dieu unique et les choses, les êtres, toutes les créatures, quelques manières d'être, il y a toute une infinité de hiérarchies qui, dans ce sens-là, sont des dévoilements de la volonté du Dieu unique à des niveaux de plus en plus restreints. Et en fin de compte, chacun a son malheur. D'ailleurs, deux. Un de droite, un de gauche. J'avais un ami qui faisait le monde d'État. Il était très vieux. Il est toujours, d'ailleurs. Moi, j'ai perdu le jeu depuis la guerre. C'était même mon chef scout au mouvement. Il était tellement pieux que chaque fois qu'il allait au cinéma, il prenait trois places. Et on ne savait jamais pourquoi. Alors un jour, il nous a dit, après j'ai appris la vraie réponse, un jour, il nous a dit, tu comprends, j'ai deux anges avec moi, je ne peux pas toucher l'État. Il prend trois places. J'avais peur d'être assis avec une femme. Alors je vais donner un conseil. Prends une place d'un homme, tu gagnes une place. Mais dis non, il y a un strapontaire, on ne sait jamais. Bien. Ça veut dire que, dans ce sens-là, du Dieu unique à la multiplicité des êtres, il y a toutes ces hiérarchies. Vous donnez un exemple. Par exemple, vous avez entendu parler de l'ange Raphaël. Qu'est-ce que ça veut dire Raphaël ? C'est Dieu guérissant. C'est-à-dire lorsque la volonté du Dieu unique concerne le problème de la guérison, alors c'est la volonté du Dieu unique qui prend le nom de Raphaël. C'est Dieu guérissant, Dieu s'occupant des problèmes de guérison. Alors ces hiérarchies-là étaient dévoilées d'une manière ou d'une autre pendant le temps de la révélation. Et pendant ce temps-là, les hommes savaient de quoi ils parlaient quand ils parlaient de ça. Depuis que le temple est détruit, depuis que la chaîne n'est pas révélée, tout ça c'est caché, invisible. Comme vous l'avez dans les textes, on en parle par le musulman. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne, mais c'est invisible. Et qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie ? C'était le fait d'adresser un culte à ces hiérarchies intermédiaires, dans le fond de l'intention. Cet idolâtre, vous savez, devant son idole et qui adore. Qu'est-ce qu'il veut en réalité, s'il savait, c'est le Dieu unique, c'est le Dieu. Mais il s'est mis devant un écran.
Justement, révélation réduite, adoration réduite.
Pardon ?
Alors ?
C'est pour ça qu'il y a une différence de nature entre l'adoration des idolâtres et l'adoration du monothéisme. Il n'y a pas de diaphragme, on est devant le Dieu unique sans être
amené.
Mais
l'injustice tellement énorme.
Non, il n'y a pas une injustice, tu n'as pas subi tout ce qui s'est passé près de Maréchal. C'est ce que chaque lignée humaine a fait d'elle-même. Et vous rappelez de cela, à l'échelle collective, de l'identité collective, de chaque manière d'être homme, tout ça se décide à disparaître. Quand l'universalisme se reconstruit, à l'échelle individuelle, chacun peut prendre, rejoindre l'élan central qui est représenté par l'essence. De nouveau, reconnu ce plan, à l'échelle individuelle, n'importe quel de ces idolâtres peut quitter l'impasse où il se trouve et rentrer dans Israël. Et c'est ce qu'on appelle les chassidés au Moutarola. Bien qu'ils fassent partie d'une entité dont le Tsar est tel Tsar, eux, à l'échelle individuelle, ils sont attachés de tout ça. Bon. Et alors, il y a une marque, une discussion dans le Mara. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Dans le Mara Chabad. S'il y a un Mazal pour Israël, il n'y a pas de Mazal pour Israël. Vous connaissez cette phrase ? El Mazal Israël, Yesh Mazal. Qu'est-ce que c'est que le Mazal ? Alors, on a l'habitude de traduire. la chance. Mais Mazal n'a plus le sens de la chance que dans les langues. Et ça ne veut pas dire la chance. La chance, c'est un mot grec. La chance, ça veut dire finalement le hasard. Mazal, ça veut dire la constellation très précise qui gouverne de façon précise tel comportement précis. Alors, la formule de la Gemara, c'est Ed Mazal l'Israël. Il n'y a pas de Mazal pour l'Israël. Il n'y a pas d'intermédiaire. Oui, toutes les grandes idolâtries dans l'Antiquité, ça, c'est pourquoi ça s'appelle Ode Kohavi ou Mazalot, ça consistait à adorer le principe divin qui gouvernait telle manière d'être, partielle d'être la créature. Vous comprenez? Et c'est pourquoi toutes les idolâtries dans l'Antiquité ont commencé par être des astrologies. Si un jour, en attendant, vous prédisez quelques textes des évangiles, je vous montrerai même le christianisme naissant était une religion astrologique. Et il reste beaucoup de traces dans les rites, surtout catholiques et orthodoxes, que très rares des prêtres chrétiens savent encore de quoi il s'agit derrière. Mais c'est une religion astrologique. Et Alors, la Gemara dit En Mazal Israël. Il n'y a pas de Mazal Israël. Il n'y a pas de déterminé qui gouverne Israël. Quand Israël pratique la Torah. Mais si Israël pratique la Torah, alors il apparaît une entité récapitulative du peuple juif, du peuple d'Israël, ne pratiquant pas la Torah, comment dire, déconnecté de la Torah, et qui est au niveau des Sarines, bien qu'il ait une place particulière. Alors, ce mot-là, vous le retiendrez, vous le trouverez dans les textes, c'est Michaël. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Michaël, en hébreu ? Michaël. C'est-à-dire que Michael a une seule chose à nous dire. Regardez un peu plus haut. Et si nous avions une imagerie, ce que nous n'en avons pas, on représenterait Michael avec le dos levé plus haut. C'est ce qu'il a dit, Michael. Regardez. Bon, ce qui est frappant, c'est que quand l'Église a prétendu remplacer Israël, au fait, c'est choisi une fille aînée. Laquelle? Qui est la fille aînée de l'Église? La France, c'est vrai que chez les chrétiens, la fille aînée de Lévi, c'est la France. Eh bien, ça nous explique des choses. C'est entre les Juifs et les Français. Eh bien, ils ont donné comme archange, comme ils disent, le sard est traduit archange, Michel, comme par exemple. Saint-Michel, c'est l'archange de la France. C'est vrai. Michel, c'est Michel. En fait, des découvertes. Si il s'appelle Michel. Bon, ça veut dire Michel.
Le doigt.
Je ne sais pas.
Je vous pose une question. Le principe du sar, là, c'est comme on a vu ce matin, celui qui défendait les Égyptiens vis-à-vis.
Nahon, ce sar de l'Égypte.
Est-ce que c'est en rapport avec les séphirotes?
Non, c'est dans une autre hiérarchie. Tout à fait. C'est-à-dire, toute cette hiérarchie, et puis il y a sept sortes de hiérarchies différentes, puis bon, ça vous apprendrez un jour, se trouve dans Olam Abina. Mais c'est pas l'esprit. Bon, alors retenez simplement, sachez que ça existe, c'est que tout cela, c'est ce qu'on appelle l'angéologie. À Torah en parle, dans ses récits, je t'en arrête pas, tout le monde dans le récit que tel roi a rencontré un ange, et lui a demandé. Tu viens pour qui? Pour nous, pour nos ennemis. Par exemple, des histoires comme ça que Abraham, trois anges, sont venus visiter. Alors, les anciens génies a essayé de faire dire ce que ça ne veut pas dire, tout simplement parce qu'ils se rendent compte de cela. La Torah nous parle d'un stade de l'histoire du monde qui n'est pas notre stade à nous. Toutes ces choses-là sont cachées, radicalement. Faites bien attention à ça. Je vous le dis souvent sous différentes formes. Mais je vous le dis vraiment très sérieusement, ne croyez pas que c'est une image. Si vous avez l'impression de voir des anges, il faut vous faire soigner. C'est bien comme ça. C'est pas vous à dire, chiffre, ça y est, je suis devenu heureux, je suis dans le monde de la vie. Attention, c'est très grave. On a été averti que ça s'arrêterait, que ça serait caché jusqu'à ce que ça recommence. Alors, il peut arriver par inadvertance qu'un voile se lève. Mais c'est très grave. On n'a pas le droit de vivre dans ce monde-là quand on est dans ce monde-ci. Vous avez compris ce que je veux dire sans avoir dit tout en disant. Mais qui vous si sans entendre des voix, voir des choses, Non, je dis ça, et vraiment, je ne présente pas. Parce que l'expérience me montre que très souvent, déjà en tant que ça, je suis séduisé, je dis ça pour les autres, mais moi, il sait très bien que moi, c'est autre chose. Il n'y a pas d'exception.
On dit toujours que le roi, le dieu de l'islam est caché. J'arrive plus à comprendre.
Ça ne veut pas dire que la Oumma, la nation de l'islam, n'est pas un sabre. Elle a. D'ailleurs, je veux dire, ce sabre, ce n'est pas le sien. Elle a le même sabre que l'islam.
Donc, ce n'est pas l'islam.
Si, si. Ah non, ce n'est pas le nom du même. Mais ça, on a déjà un petit peu étudié cela. Qu'à la fin des temps, Ismaël se cachait vite, c'est pas ça. Et pour le moment, on est dans les convulsions de l'affaire.
Il y a que deux joueurs beaucoup, alors.
On y arrive. On a fait une petite absaquette. Et qu'est-ce qu'elle va porter mieux? Bon, prenez 5 minutes, on va s'aérer un peu. Chaque fois que vous avez le mot V à Elohim dans le livre, V à Elohim, V à Elohim, ça veut dire lui, à Kadosh Baruch Hu, et son Bet-Din. V à Elohim. Je ne sais pas quel grave. Qui se souvient d'une référence de la V à Elohim? Ceux qui font la prière tous les matins. Non, bien fait. C'est-à-dire la mise à l'épreuve d'Abraham au moment où on appelle les amis de Pisa, c'est toutes les nations contestent pourquoi tu l'as choisi à lui. Oui, comment elle a dit ça? Alors le Midrash, dans le Midrash Rabbani, Va'elokim, c'est Rou ou Bet-Dinon. C'est-à-dire lui et son tribunal. Ou Bet-Dino. Bet-Din, c'est le tribunal. Okay. Alors, c'est un tribunal de 70. Pas de 3. C'est le tribunal suprême. En réalité, il y en a 72 là-bas, mais là où il y a une clé pour la porte. Qu'est-ce qu'il a dit?
Elle a dit 3.
Non,
3,
je ne sais pas pourquoi. C'est un
blocage
à
3. Non, ça c'est.
Le minimum d'un tribunal est toujours un chiffre impair. C'est 3. De telle sorte que s'il y a contestation, et voilà comment se constitue un tribunal. Chacun des plaideurs choisit un dayan. Et les deux dayanim choisissent un troisième. Ensuite, c'est un tribunal de 7. Ensuite, c'est un tribunal de 21. Ensuite, c'est le Sanhedrin de 70, mais il y en a 72. Non, 70. Et. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je ne veux pas que vous teniez les choses par exemple. Vous teniez simplement ce principe-là. Et je ne vous en parlerai pas s'il n'y avait pas trace de cela dans le texte de la Bible. Simplement, comme les rabbins jugeaient que ça pouvait être mis entre les mains de tout le monde, des récits dont parlent les anges, quand même vous avez quelques indications. C'est-à-dire que, retenez bien ce principe, toutes ces hiérarchies dont je vous parle, et vous n'avez aucune idée à quel point c'est infini comme hiérarchie, et tout ça on apprend dans la Kabbalah, et sont réels de Dieu à l'homme. Mais entre l'homme et Dieu, il n'y a rien. Allez-y, comprendre. C'est le principe que vous voulez que vous. Et il n'y a que les musulmans qui partagent cette croyance avec nous. Tous les autres, ils ont des hiérarchies. Ils sont devant des idoles. Même si ces idoles, c'est des idéaux, c'est la même chose. À un certain niveau. Vous comprenez ce que vous dites ? C'est-à-dire un musulman cachère, je veux dire un vrai musulman. Il y a aussi dans tous les. Même chez les juifs, il y a des superstitions, mais il peut y avoir des musulmans qui ont des tas de superstitions sur tel ou tel ange, tel ou tel démon, tel ou tel. Mais alors, évacuez tout ça. C'est-à-dire qu'il y a toute une infinité de hiérarchies entre le Dieu unique et finalement, en fait, chaque existant dans la réalité. Mais dans l'autre sens, il n'y a rien. Alors, vous comprenez bien que c'est une idée, un principe qui ne fait pas partie de la raison. C'est contradictoire pour la raison. Si c'est réel dans ce sens, je ne pense pas réel dans celui-là. C'est ça, la mentalité idolâtre, c'est de s'arrêter à un certain niveau d'un intermédiaire. Et alors, l'intermédiaire cache le Dieu unique. Et un grand principe de la Kabbalah, c'est que l'être est caché par ce qui le révèle. Vous comprenez cela? Si quelque chose révèle un être, c'est déjà une image. Cette image cache ce qu'elle révèle. C'est l'ambiguïté des images. Donc, l'imagination, c'est quelque chose de très important. Si on n'a pas d'imagination, on n'est pas vivant. Parce que, par exemple, un phénomène comme la sympathie dépend de l'imagination. Si on n'est pas capable d'imaginer ce que l'autre éprouve, on ne peut pas avoir de sympathie. D'ailleurs, étymologiquement, qu'est-ce que ça veut dire sympathie? Sympathia, ça veut dire pâtir avec. Comment est-ce que je veux dire? Au fond, la morale réclame une capacité d'imagination très grande. Mais si on bloque les images au niveau de symboles qui deviennent des idoles, c'est la catastrophe. Ça devient des mythes. Les images ont une force affective qui mène le monde, mais qui le mène à la catastrophe. Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, pas, si on s'arrête à une image, l'image devient un symbole qui est dévastateur. Les mythes sont dévastateurs. Et c'est quoi? Il y a une force divine derrière, mais elle a été prise au piège de quelque chose de restreint, de quelque chose de défiguré, de quelque chose de dangereux. Allez, par exemple, on prend un exemple du christianisme, parce que c'est la civilisation qu'on connaît. Et aujourd'hui, au bout de 2000 ans, les chrétiens eux-mêmes ont fini par oublier qu'est-ce que véhicule leur mythe. Mais si vous avez l'idée de ce que représente le mythe de la croix comme catastrophe morale, vous seriez effaré à fond. Ça veut dire que le salut du monde dépend de la crucifixion du meilleur des deux, c'est-à-dire un juif. Enfin, le mythe, elle est. Et comme vous savez, nous sommes anti ce mythe. Par lequel la pire des idolâtries, c'est d'avoir pris Israël comme intermédiaire entre Dieu et une figure d'Israël. Enfin, Israël en figure. Israël en mythe. Et lorsque les chrétiens eux-mêmes découvrent cela, ils sont même en fait, ils sont plus piégés. Je referme la parenthèse. Et retenez bien donc ce principe, c'est que l'être est caché par ce qui le révèle. Vous retrouverez à propos du Sinaï un verset très important. Rappelez-vous que vous n'avez rien vu, vous avez entendu. Zulatit kol, que la voix. Alors là, l'image que vous demanderez, c'est une image que j'emprunte à la chimie. Et vous savez qu'il y a des substances à travers lequel il y a osmose. Il y a certaines substances où il y a osmose que d'un côté, pas de l'autre. Vous savez ça, si on était dans une solution, comment vous appelez ça, alcaline, une membrane qui fait osmose. Alors ce qu'il y a d'un côté de la membrane passe de l'autre côté, des ions, pas les ions, des ions, I-O-N-S, mais pas de l'autre. Alors, imaginez qu'il y a un voile entre ces mondes d'en haut et nous. Ce qu'il y a plus haut voit ce qu'il y a plus bas, à tous les niveaux, mais ce qu'il y a plus bas ne voit pas ce qu'il y a plus bas. Vous voyez, osmose d'un côté, mais pas de l'autre. Et alors, je crois que ça peut vous suffire pour le moment, pour comprendre qu'effectivement, les récits bibliques nous racontent un état du monde où ce voile était transparent. Et alors quand par exemple ce récit, il y a trois anges qui viennent en vie d'Abraham, c'est des anges qui sont écrits comme ça. Et ce qu'il faut retenir, c'est pas que c'est faux, c'est que nous ne sommes pas dans un monde comme ça. C'est clair, juste pour retourner vers un avis qui nous aura le feu vert. Et ça, c'est une première chose. Et alors, je vais vous montrer dans le mot de l'homme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre lui et son nom. Tout ça, c'est des noms différents. Toutes ces hiérarchies, c'est des noms qui désignent la relation de souveraineté entre le Dieu unique et tel phénomène, tel créature. C'est clair. Mais faites attention, ce sont des réalités divines, vraiment. Mais l'idolâtrie, ça consiste à les adorer. Vous voyez donc la force de l'expérience religieuse qu'il va avoir, savoir que c'est réel et ne pas en tenir compte. Et pourquoi c'est grave tout ça? À cause du problème de la moralité ou du moralité. Parce que tous ces mythes-là, quand ils sont isolés, sont des images, des symboles qui ont des forces affectives dévastatrices et qui mettent la moralité en danger. La Torah de la morale, c'est la Torah du Dieu unique, l'unité des valeurs. Vous avez compris cette idée? Top. Je vais donner un exemple. Certains d'entre vous savent, les gens du Constantinois, vous savez qu'il y a une rive à Bol, la ville de Bol, Anava. Hein? Je ne sais pas qu'elle s'appelle Anava. Anava, c'est Anava. Il y a une fois un Sefer Torah qui est arrivé par la mer, comme ça. Il y a eu un naufrage quelque part, un Sefer Torah est arrivé. Et chaque fois qu'ils approchaient du rivage, il y avait des orages, des tremblements de terre, peut-être un peu, je ne sais pas. Puis les Arabes étaient assez appelés, et finalement ils ont envoyé une barque, parce qu'ils ont vu quelque chose qui s'approchait. Ils ont envoyé une barque, ils ont vu qu'il y avait une boîte de Sefer Torah. Ils ont plein de lui. Sefer Torah, tout s'est calmé. On a construit une synagogue spéciale qui s'appelle Adriba, à Boulle, et où il y avait ce Sefer Torah. Vous avez entendu parler?
À Djerba,
il y en a deux. À Djerba, il y en a deux. Okay.
Ça
va
dans la prendre.
Et alors, les Arabes venaient, chaque fois qu'ils avaient une prière à faire, ils venaient dans cette synagogue, demander qu'on leur ouvre ce Sefer Torah pour faire leur prière. Alors, on vérifiait si cet Arabe était vraiment musulman, c'est-à-dire s'il était monothéiste. S'il était fétichiste, on ne le laisse pas. Pour vous dire. Bon, c'est pas toi et la patrie à Paris. Et probablement qu'il sera un jour patrie en Israël. On est en train de construire une synagogue ici. Bon, probablement Ramadan, je ne suis pas sûr. C'est pas mal de choses.
C'est pas
d'où ils
viennent. C'est pas d'où ils
viennent. Non. Il y aura un naufrage. Bon, beaucoup de juifs de Bol d'ailleurs, mais. On rêvait, quelqu'un se réveillait à eux pour dire c'est pas moi, c'est moi, d'ailleurs.
Quand vous dites connaître est caché par ce qu'il révèle, c'est valable pour les religions de la Torah?
Absolument. On a compris vraiment la Torah, de par la Torah, j'ai pas le prix. Vous avez fait mille fois cet exercice, vous ouvrez le livre, vous lisez, qu'est-ce que vous lisez? Chouda. Vous connaissez? Je vous donne un exemple. La parole révèle la pensée et la cache. C'est-à-dire, d'une certaine manière, il y a plus dans la pensée que dans la parole. C'est un tzimtzum, la pensée se restreint dans une parole. D'une autre manière, il y a plus dans la parole que dans cette pensée. Mais il n'y a pas de doute que la parole qui révèle la pensée la cache. Sauf les paroles de vérité. C'est les paroles qui dévoilent. Mais si on ne sait pas entendre les paroles de vérité, la vérité qu'il y a dans les paroles, la parole qu'on a entendue cache ce qui a voulu être dit. C'est vrai, il n'y a pas de sens. Ce qui révèle l'être le cache. Sauf quand si ce qui révèle est transparent. Vous comprenez ? Donc, alors je vais vous montrer ça, c'est un des grands kabbalistes qui l'a indiqué, sur l'enseignement de l'éducation de la vérité, le mot de loup. Retenez ce que je vais vous apprendre sur le mot de loup. Il fait bien attention, qu'est-ce que je veux dire ? Lui, c'est eux, mais eux, c'est pas lui. C'est clair ? Je dis Hachem ou Elohim, jamais vous avez l'inverse. Lui, c'est aussi les lois de la nature, c'est sa volonté. Mais je ne peux pas dire les lois de la nature, c'est lui. Si je le vois, lui, dans les lois de la nature, j'ai restreint, j'ai idolâtre. C'est clair ? Alors, il nous montre ça comme ça. Rou, Ushmo, Echad. Qu'est-ce qui apparaît là ? Rou. Vas-y. Lui et son nom, c'est un. Et c'est ça, Rou. Regardez bien ça. Rou, on va être dit. Pas dans le sens inverse. C'est-à-dire que. C'est peut-être une bêtise que je vous dirai, je sais pas, vous vérifiez avec moi. Qui peut le plus, peut le moins. On ne peut pas dire que qui peut le moins, peut le plus. Hachem ou Elohim. On va dire que Elohim, c'est Hachem. Ça, c'est le verbe des panthéistes. Dieu se révèle dans la nature. Et il faut avoir des yeux perçants pour savoir lire. Sinon, on ne voit que la nature. On ne peut pas dire que la nature, c'est. Parce que si la nature c'est lui, on est perdu. Parce qu'elle est la loi de la nature, c'est déterminé dans ce temps. Vous suivez ?